Voilà, merci de bien vouloir rejoindre vos places. Nous allons commencer cette soirée. Je suis heureux de vous accueillir pour cette soirée de la chaire Jean Rodin. Je suis Alain Thomasset, donc doyen de la faculté de théologie et aussi membre du séminaire qui a été à l'origine de cette soirée et aussi vice-président de la Fondation Rodin. La chaire Jean Rodin, vous savez, c'est le fondateur du Secours catholique qui a donné le nom à la chaire qui patronne cette soirée. Je salue le président de la Fondation Rodin, Mgr Descubes, qui est là, et sa directrice, Christine, qui est par là, je ne sais plus, Christine Gilbert. Voilà. Cette chaire Rodin, elle vise à proposer des enseignements, encourager des travaux de recherche sur le thème de la charité. Vous savez que Mgr Rodin, le fondateur du Secours catholique, disait « il ne suffit pas de faire des actions de charité, il faut aussi réfléchir et penser philosophiquement, théologiquement, la charité ». Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et la Fondation Rodin, qui soutient la chaire Rodin, donc nous aide dans cette réalisation. Je signale au passage que la Fondation Jean Rodin a également un site internet qui s'appelle « Servons la fraternité » et que vous pouvez retrouver là tout récemment les vidéos qui ont été prises à l'occasion de l'Université de la Solidarité qui a eu lieu à Lourdes cet été. Donc vous pourrez retrouver... À novembre. Je disais l'été, on est tellement habitués. Voilà, en octobre. La chaire Rodin organise des cours, des séminaires, des conférences sur le thème de la charité dans cette maison pour souligner les enjeux pratiques et spirituels de la charité. Vous retrouverez les enseignements qui sont liés à la chaire Rodin dans le programme du Centre Sèvres avec l'indication « Chaire Jean Rodin ». Donc, il y a un certain nombre de cours sur l'enseignement social de l'Église, sur la théologie du peuple, la théologie de la libération, sur la christologie des pauvres, et également le séminaire de recherche qui était animé par Étienne Grieux, Lord Blanchon et Jean-Claude Caillot, mon voisin, à la recherche du plus pauvre, contribution du père Joseph Rezinski à l'option préférentielle pour les pauvres. Ce séminaire s'est réuni pendant 2 ans, et nous vous présentons ce soir une partie des résultats de ce séminaire. Et nous aurons demain également une journée d'études qui permettra d'approfondir un certain nombre de thèmes dont nous allons parler ce soir et qui ont été étudiés au cours de ce séminaire. Donc notre soirée, c'est vraiment reprendre ce thème, priorité aux plus pauvres, repenser l'option préférentielle pour les pauvres avec Joseph Rezinski. Je rappelle Joseph Rezinski, fondateur de ATD Quart-Monde, qui appelait à reconnaître une priorité aux plus pauvres. Dans les mêmes années, l'Amérique latine proposait, elle, de parler d'options prioritaires pour les pauvres, expression, vous savez, qui est devenue, partie de l'héritage de l'Église de France, de l'Église universelle, puisque le pape Jean-Paul II a repris l'expression dans son encyclique Sollicitudo Rei Socialis en 1987. Donc l'option préférentielle pour les pauvres est devenue un des principes finalement de la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que la perspective avancée par Joseph Rezinski apporte de neuf à cette option ecclésiale de priorité aux plus pauvres? Cette Église où on commence à découvrir de plus en plus l'importance cruciale de notre relation avec ceux qui sont laissés pour compte de la société, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont invisibles, ceux qui sont les pauvres en général. Et on verra de qui il s'agit. Cette soirée et ces journées d'études rendent compte donc de ce travail qui a été fait pendant le séminaire, pendant les 2 dernières années. Et je vous dis dans un instant quel va être notre programme. Avant cela, je vous rappelle et je vous signale que vous avez un stand de livres à votre disposition dans le couloir qui vous permettra de, de voir et d'acheter des livres sur la question d'athée des Carmans, sur la réflexion qui a été menée. Notamment, je vous signale le livre qui vient de paraître sous la direction d'Étienne Grieux, Gwenola Rimbaud et Laure Blanchon, « Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule ?» Une théologie à l'école des plus pauvres, et qui était précisément le résultat des recherches menées dans le précédent séminaire de recherche que nous avons mené dans cette maison, et qui a donné lieu également à une soirée et à une journée d'études. Donc vous voyez, cette journée d'études a été publiée aujourd'hui. Je vous signale également dans le couloir du Centre Sèvres une exposition qui a été réalisée par le SAPEL, vous savez, cette communauté du Carmont de, près de Lyon, qui, voilà, sous forme de dessins, sous forme de petits poèmes. Voilà, donc on est très heureux que cette exposition puisse être là. Je vous dis donc brièvement le programme de cette soirée. Le père Joseph Wrzesinski sera présenté, sera rappelé dans son itinéraire et dans sa pensée par Jean-Claude Caillot, donc qui est fondateur, animateur de l'association Pierre d'Angle, voilà, qui anime aussi le groupe Place et Parole des Pauvres. Nous aurons ensuite une réflexion des membres de cette association, de ce groupe Pierre d'Angle, donc qui sont là, que je salue, donc Laurence, Alain et Claudine, voilà. Et nous aurons ensuite un temps de réflexion personnelle en petits groupes à partir d'un texte qu'on vous distribuera tout à l'heure. Voilà. Nous aurons nous-mêmes à travailler un peu sur des textes, sur ces paroles qui ont été prononcées. Et nous aurons ensuite une reprise théologique par Étienne Grieux et Laure Blanchon. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons réfléchir à partir de cette parole des pauvres, comment elle nous inspire aussi théologiquement, et puis nous aurons un échange avec la salle, avec vos questions. Voilà, donc vous voyez, nous avons un programme bien tassé, bien garni, mais on a pensé que le menu devait être consistant pour vous. Donc voilà, nous sommes heureux de vous accueillir, et je laisse maintenant la parole à Jean-Claude Caillot pour qu'il nous présente des éléments de biographie du père Joseph Wrzesinski.
Voilà. J'ai préparé quelques mots, surtout pour des gens qui connaissent pas trop le père Joseph. Mais pour les autres, c'est toujours intéressant d'entendre parler de quelqu'un que l'on connaît à partir d'un point de vue qui n'est pas le sien. Trop pauvre, citation, trop pauvre, nous étions les mis à part du quartier, liés à l'ensemble par l'aumône, non par l'amitié. Tels sont les mots du père Joseph Wrzesinski lorsqu'il se souvient de son enfance. Lorsqu'il naît à Angers, le 12 février 1917, il y a 100 ans, d'un père polonais et d'une mère espagnole, la famille est déjà frappée par la précarité et l'humiliation. En raison de la guerre. Son père Ladislas, sa mère Lucrécia. Après la guerre, c'est le chômage de Ladislas. Son départ de la maison, son retour en Pologne, où sa femme ne veut pas le rejoindre. C'est alors le dénuement. Le manque d'argent, la honte et la violence s'installent. Et davantage que pour ses deux frères et sa sœur, cette expérience déchire la mémoire de l'enfant Joseph et devient la source, citation, d'un combat où sans doute je serai perdant, mais que, têtu, je continuerai tout au long de ma vie. Certificat d'études de Joseph, apprenti pâtissier, rencontre de la JOC, jeunesse ouvrière chrétienne. Et c'est pour lui, cette rencontre de la JOC, une expérience décisive. Elle l'entraîne à aller vers les autres, aussi pauvres et plus pauvres que lui, et cette démarche lui fait se poser la question de devenir prêtre. Combattre, écrit-il, combattre pour que jamais plus une famille ne fût semblable à la mienne, c'était devenir prêtre de Jésus-Christ mort et ressuscité. Il est ordonné prêtre en juin 1946 et il exerce son ministère dans deux paroisses, à Ternier et à Duisel, paroisses ouvrières pour l'une, rurales pour la seconde. Ministère sacerdotal, presbytéral pendant 10 années. 10 années pendant lesquelles il est sans cesse à la recherche. Le mot recherche est important, il reviendra souvent ce soir, il reviendra souvent surtout demain, à la recherche des plus enfermés par le malheur. Il est taraudé par l'exigence intérieure de descendre toujours plus bas dans l'humanité souffrante et de partager avec elle la peine et la honte. Cette recherche n'est pas du goût de tout le monde autour de lui. Il arrive même qu'on se plaigne de ce prêtre que l'on nomme de plus en plus souvent, et pas seulement affectueusement, le curé de la racaille. Et voici qu'une lumière apparaît en la parole de son évêque. « J'ai quelque chose pour toi, lui dit-il, dans la banlieue parisienne, à Noisy-le-Grand. » « Va voir, personne ne reste là-bas, reste le temps que tu veux. » C'est l'heure, le tournant, comme une réponse à l'appel insistant. Et voici le père Joseph, un 14 juillet 1956, dans le camp dit du Château de France, à Noisy-le-Grand, où sont hébergées plus de 250 familles dans des abris en fibro-ciment. Il ne faut pas imaginer un homme qui arrive avec un projet tout ficelé qu'il lui faudrait mettre en œuvre. Pas du tout. En ces tout premiers temps, il demeure seul et sans défense. Et c'est terrible. Tout le surprend, le déconcerte. Il écoute. Regarde, ne cesse de s'interroger et surtout ne laisse aucune réponse le rassurer. Quelque chose cherche à naître. Pour lui, c'est indubitable. Mais il ne sait pas ce que cela peut être. C'est l'inconnu. Plus que jamais, sa devise presbytérale est d'actualité. Va au large et jette tes filets. Au large. Là où tu ne sais pas. À la recherche de la brebis égarée dans le monde de la désespérance. Il vit intensément que si, écrit-il, pour rencontrer le Seigneur, il faut aller aux plus opprimés, il lui faut alors d'emblée faire la jonction audacieuse entre le plus pauvre et Jésus-Christ, car ils ne font qu'un. Il se trouve ainsi engagé dans un mouvement de dépouillement, dira-t-il lui-même, délogé de toute sécurité, pour laisser le Christ l'entraîner précisément là où il ne sait pas, et qui sera un combat spirituel littéralement titanesque. Appuyé sur la formation reçue à la JOC et au séminaire et sur l'expérience des rencontres dans ces deux paroisses, c'est essentiellement dans cet au-delà de la nuit que va peu à peu se forger la pensée du père Joseph. Cette pensée qui s'engendre à la fois d'une vie partagée et de l'Évangile. L'Évangile lui donne de relire et d'interpréter son expérience et celle des familles très pauvres qu'il rencontre à Noisy, et son expérience de la rencontre des familles misérables lui donne de relire l'Évangile. Il y a une circularité entre ces deux dimensions qui constitue comme la double source de sa pensée. L'Évangile et son expérience de la rencontre. L'expérience humaine de la misère s'éclaire à la lumière du Christ et réciproquement. Et cette double source, si je puis m'exprimer ainsi, s'inscrit dans un projet dont elle ne peut être dissociée, le combat contre la misère et la volonté de contribuer à sa destruction, à sa destruction. Installé et vivant dans le camp, tout est difficile. Une manière de partager le drame quotidien fut de créer avec quelques familles une association qui deviendra plus tard le mouvement ATD Quart-Monde. C'est dans ce camp aussi qu'il réunit peu à peu un volontariat international qui se lie en communauté de destin avec les plus pauvres. Ces hommes et ces femmes qui le rejoignent ne partagent pas nécessairement la même foi religieuse que lui. Cette diversité des enracinements lui paraît très vite essentielle. C'est, lui semble-t-il et écrit-il, répondre aux droits des plus défavorisés d'être au centre de toutes les croyances et idéologies, et le droit des hommes d'être unis malgré leurs différences. Le mouvement qui ainsi se crée, en dépit de ses racines évangéliques, n'est donc pas un mouvement d'Église. Peu à peu aussi, se tisse un réseau d'alliés, personnes de tous milieux qui se compromettent en étant témoins, là où elles sont engagées, de la souffrance et du courage des familles et personnes qui vivent la misère. Relisant 25 ans plus tard ses premiers mois à Noisy-le-Grand, le Père Joseph dira que la rencontre d'une misère collective, et non plus seulement individuelle, avait fait naître en lui l'intuition que toutes ces personnes sont un peuple, et que, malgré le mépris qui les entourait, il ferait en sorte qu'elles puissent gravir les marches des lieux qui règlent l'aventure humaine. Élysée, ONU, Vatican. Le Père Joseph pressentait aussi que ce qui pourrait libérer ce peuple cerclé dans son isolement, c'était d'être introduit dans la participation à un projet politique qui le prenne pour réel partenaire, et non pas d'être l'objet d'aides toujours individuelles, individualisées et entraînant la dépendance. En toutes ces années, jusqu'à sa mort le 14 février 1988, le Père Joseph anime le mouvement ATD Quart-Monde qu'il a fondé. Cela exige de lui beaucoup d'attention et de présence à travers le monde. En plus, il est acteur de la lutte contre la misère, tant avec l'administration française qu'avec des institutions internationales. La misère demande non seulement la solidarité, dira-t-il, mais une grande politique. Non seulement la solidarité, mais une grande politique. Et encore, si ce ne sont pas les pauvres qui bâtissent le monde, qui le critiquent et le construisent, quel monde bâtissons-nous ? Notamment, il travaille à reprendre la question des droits de l'homme à la source, c'est-à-dire pour lui, à partir de cette partie de l'humanité qui en demeure intégralement privée. Grâce à sa ténacité, il parvient à faire admettre que la misère est une atteinte aux droits de l'homme. Enfin, je veux souligner la vision unificatrice du Père Joseph, caractéristique de sa manière d'être et de son projet. L'humanité, pense-t-il, l'humanité est déchirée par l'exclusion sociale et son indivisibilité est déniée. L'humanité ne peut retrouver son unité, pense-t-il, que lorsqu'elle consentira à se rassembler autour des plus pauvres. Ce qui est une exigence radicale. Car, remarque-t-il, faire place aux plus pauvres signifie toujours un changement profond des habitudes et structures. On pourrait assez bien résumer la démarche intérieure du Père Joseph avec cet aphorisme d'un sage juif de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Moshe Leib de Sassov. Vous voulez trouver le feu, point d'interrogation, vous voulez trouver le feu, cherchez-le dans la cendre. Vous voulez trouver le feu, cherchez-le dans la cendre. Alors après cette brève présentation du Père Joseph, de sa trajectoire, et vous imaginez bien que en chacune des lignes, il mériterait de lire en note des pages et des pages. À présent, un texte va vous être lu. Il s'agit d'une réflexion menée par un groupe de personnes de la Pierre d'Angle. La Pierre d'Angle est une fraternité qui rassemble 20 groupes dans 17 villes en France. C'est une fraternité autour de la personne de Jésus et à partir de la spiritualité engendrée par le Père Joseph Wresinski. Cette fraternité rassemble des personnes du quart monde et d'autres qui les rejoignent, et le site de la Pierre d'Angle pourrait vous en dire davantage. 11 personnes de la Pierre d'Angle, venant de différents groupes, se sont réunies pendant un week-end pour échanger autour de la priorité aux plus pauvres, telle que la conçoit dans ce qu'il a écrit le Père Joseph. Et cette rencontre était faite pour proposer et donner un texte pour le séminaire dont Alain Thomassé vous a parlé tout à l'heure. Les échanges ont été enregistrés, décryptés, et cela a donné le texte qui va suivre, ou en tout cas dont des extraits vont vous être lus. On avait d'abord travaillé, dans ce week-end, autour de la parabole de la brebis perdue. Il n'échappera à personne que question là de forme de priorité aux plus faibles. Puis réfléchis à ce que voulait dire pour chacun l'expression priorité aux plus pauvres. Et enfin, le groupe a partagé autour de quelques textes du Père Joseph. C'est cette dernière partie qui va vous être lue. Alors, pour que vous vous y retrouviez, je lirai moi-même le court texte du Père Joseph qui a été réfléchi par les membres du groupe. Et puis 3 membres de ce groupe vous diront ce texte, qui est donc un texte collectif. Alors, voilà, je vous présente les 3. Laurence, qui est la première à se lever, Claudine, et puis entre les deux, Alain. Laurence est du groupe de La Flèche, Claudine du groupe de Paris, et Alain du groupe de Somain-Lens. Père Joseph, c'est en luttant parmi les plus pauvres et en donnant priorité à leur regard qu'un jour je me suis réveillé d'église, tellement d'église que je pensais qu'il fallait que je sois prêtre.
Le Père Joseph voulait donner aux plus pauvres un regard de manière qu'ils soient fiers, plus dignes. Tout ça, ça se voit dans le regard. Si une personne est affolée ou perdue, leur donner la priorité, c'est leur donner encore une dernière dignité et une fierté. Le Père Joseph voyait dans le pauvre la foi du Christ. Il voit le Christ à travers le pauvre. Le regard du pauvre est un regard aimant, un regard aimant malgré la souffrance. Par rapport à cette souffrance qu'il endure, ils ont quand même cette foi qui représente Jésus sur la croix. La priorité au regard du pauvre, c'est l'expression du regard du pauvre. Le Père Joseph arrive à lire la souffrance dans le visage du regard et aussi il voit le désespoir. En lisant la souffrance dans le regard, il voit le désespoir. Et ça lui a donné le choix de devenir prêtre pour vivre avec eux. Des fois, dans un regard, on arrive à lire. Il y a des gens qui vont dire « Il est fou !» Mais non, nous, on arrive à lire la souffrance dans le regard. Cette souffrance qui nous ronge. On ne voit pas la souffrance, mais il y en a qui arrivent à lire.
Père Joseph, le monde des plus pauvres n'est-il pas le monde de l'amour ? Celui où le Christ est pleinement à l'aise, puisqu'il est en priorité le sien.
Jésus était plein d'amour pour les pauvres. Il était proche des pauvres. Le Christ est né dans la pauvreté. Il a vécu dans la pauvreté. C'est pour ça qu'il a de l'amour pour les pauvres, parce qu'il a vécu ça aussi. La plus belle preuve d'amour du Christ, c'est qu'il a été jusqu'à la mort. Il a été pauvre parmi les pauvres. Et aujourd'hui, combien de pauvres sont renvoyés, éjectés, expulsés, humiliés? Quelqu'un me disait, « Tu sais, j'ai été 10 minutes dans l'arrêt de bus. Ça m'a semblé une éternité parce que les gens me regardaient avec mes 2 enfants parce que j'étais mal chaussée. » Ça, c'est des choses qui, dans notre vie, de tous les jours, nous font penser au Christ. Je crois que l'amour, la foi et la compassion sont très proches au niveau de l'esprit humain. Quand on est pauvre, on n'a plus que ça. Et c'est ça, sa dignité. Donc, Jésus se retrouve très bien parce qu'il a eu les mêmes souffrances et de la compassion par rapport aux autres. Le Père Joseph a vu Dieu. Il a vu que le pauvre n'a que l'amour pour s'en sortir. C'est ce qu'a vécu le Christ sur la croix. Il n'avait que l'amour pour son Père, l'amour comme seule espérance. Le monde de l'amour de Jésus et le monde de l'amour de nos groupes, c'est identique. Ça nous aide à porter notre croix commune.
Père Joseph, sommes-nous vraiment allés jusqu'au bout, jusqu'au plus exclu, mettant ainsi de notre côté toutes les chances d'avoir le Christ avec nous?
Est-ce qu'on va faire comme Jésus, aller dans le désert, aller chercher celui qu'on a du mal à trouver, parce que c'est dans le désert où personne s'aventure, et c'est ce que Jésus a fait pour se tester lui-même. Il faut passer au-dessus de nos capacités, c'est-à-dire aller rencontrer l'autre, malgré la difficulté qu'on a à le rencontrer. Des fois, on se dit « j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire ». J'essaie de faire des choses et c'est moi qui ai tort et je me fais insulter et je me fais renvoyer et pourtant je continue à le faire. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui nous donne cette force à pouvoir poursuivre la mission que chacun d'entre nous a. C'est descendre au plus profond, dans les coins les plus reclus, comme le père Joseph qui a été dans le camp de Noisy, ne pas avoir peur d'aller dans l'ombre. On se dit, est-ce qu'on va réussir à sortir de l'ombre la personne? On voit des gens en détresse, on leur tend la main, on arrive à les sortir, et puis quand ils retombent, on se dit qu'on n'a pas réussi. Mais je pense qu'il faut persévérer, se dire qu'il faut qu'on repart chercher la personne. Il ne faut pas baisser les bras, mais c'est pas toujours facile. C'est assez dur. On prie pour qu'il nous donne la force. On n'a peut-être pas la force du Christ, non, mais on lui demande de nous donner la force, voilà. Pour aller devant l'exclu, c'est difficile, parce qu'on est de l'autre côté. Eux sont dans un autre monde, et eux sont dans le leur. Moi, je suis prête à faire un pas de l'autre côté. C'est très compliqué, parce qu'ils sont tellement rentrés dans l'exclusion qu'ils ne nous autorisent pas qu'on fasse le pas. Depuis quelque temps, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas redevenir exclu pour arriver à toucher l'exclu?
Père Joseph, le changement demandé est d'assumer pleinement la dignité des pauvres, de prendre leurs pensées comme repère pour toutes nos politiques, leur espérance comme repère de toute action.
Quand on fait la rencontre d'une association, je vais parler du mouvement ATD Quart Monde. On va dans des lieux témoigner, on est écouté, on n'est pas jugé. Et à partir de là, se construit ce que voulait le père Joseph. Non pas une plainte, mais leur réflexion propre de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils attendent de la société. Prendre leurs pensées comme repère, pour moi, c'est leur redonner la confiance qu'ils n'ont plus. Parce qu'ils n'ont plus confiance, ils sont perdus. C'est les remettre sur un pied d'égalité pour leur redonner confiance. J'ai écouté dans tout ce qu'on vient de dire, j'ai entendu le mot respect, le mot réflexion. Et la confiance, c'est un chemin.
Père Joseph, renverser les priorités, faire des travailleurs sous-prolétaires notre source de pensée et notre moteur de l'action, c'est bâtir une communauté où il fait bon vivre pour tous.
Si on prend l'image de la source qui désaltère, quand tu prends de l'eau, bien souvent, l'eau part entre tes doigts. Elle coule. Il ne reste plus rien. Dans notre société, aujourd'hui, on prend juste un peu la pensée du plus pauvre pour faire plaisir. Mais c'est le tout qu'il faut prendre. Je pense aux élections qui arrivent. On va faire ça un petit peu. Et puis le reste, on va le laisser. Mais c'est le tout, l'ensemble de la personne qu'il faut prendre, puisqu'il fait partie intégrante de la société. Ses souffrances, sa vie qu'il mène et tout. Le père Joseph l'avait très bien compris. Il vit des choses. Il doit amener toutes ses difficultés sur la table pour voir comment on va faire avec ça pour construire une société. Parce que c'est bien celui qui vit dans les difficultés qui sait de quoi il parle. C'est pas celui qui a des idées toutes faites, qui sait tout, parce qu'il a fait des études et tout. Jésus n'a jamais demandé de faire des études pour connaître la foi. Renverser les priorités, c'est bien de dire que ce n'est pas celui qui a eu ou celui qui connaît qui va faire la société. C'est ensemble, c'est pas des partis, c'est ensemble.
Père Joseph, si nous rejoignons d'autres combats, ce sera pour rendre attentifs les autres à ceux qui sont au dernier degré de la souffrance, de l'écrasement, du malheur, de la désespérance.
Le père Joseph nous apprend d'écouter l'autre et d'être convaincu qu'il a quelque chose à m'apprendre. et je vais recevoir quelque chose de lui. C'est difficile parfois. Si je vais jusqu'au bout de ce que je dis, moi, aujourd'hui, je suis sûre que je vais y rencontrer Jésus. L'exclu est dans une attente. Il veut retrouver de l'espoir. Alors, il faut que j'arrive à lui expliquer que, pour continuer, même s'il est fatigué, s'il est épuisé, s'il n'a plus la force d'avancer, surtout de ne pas abandonner, de reprendre son courage à deux mains pour retrouver le chemin. Des fois, on est fatigué, on n'a plus le courage d'avancer. Même moi, il y a des moments où je n'ai plus envie d'avancer. Je n'ai plus envie d'être sur le chemin avec Jésus parce que je n'ai plus le courage, plus la force. Ce qui me donne du courage, c'est de me redire, il y a une réunion de la pierre d'angle. Aussitôt, il y a une lumière et j'efface l'obscurité. Je sors de l'ombre pour cette lumière. C'est ça qui me fait vivre. Et ce qui me fait vivre aussi, c'est la fraternité de la pierre d'angle. Pour moi, c'est une reconnaissance de la délivrance de ma souffrance, de l'ignorance. C'est une renaissance. Je retrouve confiance. Aujourd'hui, ce qui me pousse à rester sur le chemin avec Jésus, malgré que je suis fatiguée, que je n'ai plus le courage, je dois lutter. Je ne dois pas abandonner. Et la fraternité de la pierre d'angle, de tous les groupes de toute la France, pour moi, ça représente Jésus.
Merci beaucoup à Laurence, Claudine et Alain pour cette, avoir prêté leur voix à ce texte qu'ils ont écrit ensemble avec d'autres. Merci à Jean-Claude également. C'est maintenant le temps donc de faire un petit travail ensemble. Donc on va vous distribuer des feuilles sur un texte et on va vous expliquer comment faire avec ce texte.
Alors, ce qu'on vous propose, c'est de retourner un peu vos chaises pour vous mettre par 5 ou 6 pour échanger à partir de ce texte. Et nous vous proposons deux questions pour votre échange. C'est Étienne qui l'a au fond. Alors, je pense que ça y est, le texte est à peu près partout dans la salle. Je vous donne les deux questions pour votre échange. Alors, une première question. J'attends un instant parce que j'en vois qu'ils sont en train de tourner leur chaise, alors on va attendre un petit peu. Alors, une première question. Qu'est-ce qu'on découvre sur le choix du plus pauvre ? Qu'est-ce qu'on découvre sur le choix du plus pauvre ? Et une deuxième question. Est-ce qu'il y a des choses qui nous surprennent ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous surprennent ? Voilà. Peut-être chacun peut prendre un petit instant personnellement sur la feuille et puis échanger une vingtaine de minutes à peu près. Alors, on vous propose maintenant... On vous propose maintenant de suspendre le 6-6 et de revenir dans le sens de l'assemblée. et on reprendra l'échange en grand groupe dans un moment.
Voilà, merci de reprendre vos places petit à petit.
Et t'as vu, à la fin, j'ai mis des questions.
Oui, et je t'ai répondu.
Alors, après cette lecture de cette parole qui nous avait été d'abord dictée et entendue, voilà, Laure et Étienne vont faire une relecture théologique de ce texte. Je leur laisse la parole.
Ces quelques passages de textes du Père Joseph et les commentaires des membres de la Pierre d'Angle sont précieux pour repérer les éléments centraux de ce qu'est la priorité aux plus pauvres selon le Père Joseph Wrzesinski. Le Père Joseph pense la priorité aux plus pauvres comme une priorité donnée à leur regard. Dans le passage 1, le Père Joseph souligne que donner priorité à leur regard est lié à une lutte parmi les plus pauvres. C'est donc le fruit d'un coude à coude qui l'amène à donner priorité à leur regard. Tout est né d'une vie partagée, jamais d'une théorie, dit-il ailleurs. Les membres de la Pierre d'Angle indiquent que le Père Joseph avait la capacité d'interpréter le regard, de discerner la souffrance qui ronge, le désespoir, et aussi de voir le regard aimant malgré la souffrance. Et ça, sans doute, c'est le fruit d'une vie partagée. Plus loin, en commentant le passage 2, l'une des personnes indique que c'est seulement l'amour qui permet aux pauvres de s'en sortir. La spécificité de leur regard serait donc leur capacité à tenir dans l'amour au cœur du désespoir. Tenir dans l'amour au cœur du désespoir. Et en cela, ils sont comme le Christ sur la croix. Cette priorité donnée à leur regard conduit à un changement de repère pour nos politiques et nos actions, une révolution dans la pensée et dans le regard sur l'homme, à un renversement des priorités. Les membres de la Pierre d'Angle indiquent que le changement demandé, c'est d'abord le respect. N'être pas jugé et être écouté met les personnes en confiance et permet l'émergence de leurs réflexions propres sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils attendent de la société. La conversion se situe dans la foi, en leur capacité à accéder à une pensée propre, un regard propre sur le réel. C'est-à-dire, comme l'explique l'une des personnes, il s'agit d'apprendre à écouter l'autre et d'être convaincu qu'il a quelque chose à m'apprendre et que je vais recevoir quelque chose de lui. Et la personne ponctue avec lucidité, c'est difficile parfois. Donc la conversion consiste à s'attendre à entendre une pensée. S'attendre à recevoir quelque chose du très pauvre. S'attendre à apprendre de lui. Et ça suppose de se mettre dans une disposition d'écoute, d'accueil. Et c'est probablement cela la révolution qu'implique la priorité aux plus pauvres. En fait, c'est très dérangeant, très bousculant, car nous perdons nos repères habituels, académiques, sociaux, nos organisations bien rodées. Mettre en priorité le regard des très pauvres, c'est vouloir refaçonner le monde par le bas, dit le père Joseph. C'est choisir d'assumer pleinement la dignité des pauvres. En quoi consisterait cette pensée propre des très pauvres que nous pouvons nous attendre à entendre ? Dans le passage 6, le père Joseph souligne que les plus pauvres n'ont ni or ni argent, mais, citation, « nous avons ce que les autres n'ont pas et qu'ils doivent connaître. C'est notre expérience de l'exclusion. » Leur pensée propre vient de leur expérience, une expérience qui n'est pas l'expérience commune, mais qui est l'exclusion. Et c'est une expérience qu'ils ont à faire connaître, disent-ils. Qu'est-ce que l'exclusion fait expérimenter ? Ils disent « nous avons expérimenté tout ce qui humilie et fait souffrir un homme, une famille, un milieu ». Et le fruit de cette expérience, dit le père Joseph, c'est de s'engager pour rendre attentif à ceux qui sont au dernier degré de la souffrance, de l'écrasement, du malheur, de la désespérance. Donc l'humiliation et la souffrance qui broient ont généré dans ces gens, non pas un repli sur soi, mais une force de résistance pour continuer à ajouter des jours aux jours et une capacité à se rendre attentif aux derniers, aux plus écrasés. Donc, à partir de leur expérience d'être eux-mêmes broyés, ils suscitent une mise en mouvement de toute la société en la sensibilisant à la présence des plus pauvres. Quelle fécondité peut-on attendre de cette manière de mettre le regard des plus pauvres au fondement de nos politiques, de notre pensée et de nos actions ? Dans la section 5, le père Joseph affirme que c'est bâtir une communauté où il fait bon vivre pour tous. Et les membres de la Pierre d'Angle, dans leurs commentaires, indiquent trois conditions pour bâtir une communauté bonne à vivre pour tous. D'abord, prendre le tout de la personne très pauvre et de sa pensée en la reconnaissant comme partie intégrante de la société. Je vous lis un petit bout du commentaire 5. Dans notre société aujourd'hui, on prend juste un peu la pensée du plus pauvre pour faire plaisir. Mais c'est le tout qu'il faut prendre. C'est le tout, l'ensemble de la personne qu'il faut prendre, puisqu'il fait partie intégrante de la société. Ses souffrances, la vie qu'il mène et tout. Donc, pas une concession en lui faisant un peu de place à la marge. Non, mais regarder comme partie intégrante de la société, la personne très pauvre avec tout ce qui fait sa vie. Ça, c'était la première condition. Deuxième condition, reconnaître l'expertise de celui qui vit l'expérience plutôt que de ne prêter attention qu'à celui qui a fait des études ou qui a des idées toutes faites. Car, disent-ils, c'est celui qui vit des difficultés qui sait de quoi il parle. Dès lors, il s'agit de renoncer à penser et à savoir à leur place, et de décider de les interroger pour qu'ils disent ce qu'ils vivent, leurs besoins, leurs expériences, leurs priorités, et ainsi qu'ils participent à l'élaboration du vivre ensemble. Enfin, troisième élément, bâtir ensemble la société, non pas en opposant les riches et les sachants aux pauvres, mais au contraire, en reconnaissant la nécessité d'être ensemble. À la fin du commentaire numéro 5, on a cette petite phrase. Renverser les priorités, c'est bien de dire que ce n'est pas celui qui a ou celui qui connaît qui va faire la société, c'est ensemble. C'est pas des partis, c'est ensemble. On a donc un mouvement de prise en compte de chacun et de mise en commun des expériences pour bâtir ensemble la société. Ni les riches et les sachants, ni les pauvres ne se suffisent à eux-mêmes. Les uns ont besoin des autres pour susciter une société pour tous. En faisant ainsi, c'est-à-dire en prenant en compte la personne très pauvre en entier, en tant que partie intégrante de la société, en reconnaissant l'expertise que leur donne leur expérience de la misère et en cherchant ensemble, alors peut se bâtir une communauté où il fait bon vivre pour tous. Comment nous orienter pour aller dans le sens de cette priorité et de cette société où il fait bon vivre pour tous? Juste avant le passage 3 que vous avez sur vos feuilles, le Père Joseph indique une boussole sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui emmène toujours plus loin ses disciples, vers, dit-il, un au-delà, vers un hors-la-ville, vers les chemins creux où personne n'a envie d'aller. Grâce à cette boussole christique, nous resterons toujours en mouvement, en recherche, jamais tranquilles, pour aller jusqu'au bout, jusqu'au plus exclu. Cette intranquillité, faite de recherches jamais achevées du plus pauvre, est un trait de la manière qu'a le Père Joseph de penser la priorité aux plus pauvres. La visée ultime est christologique, mettre de notre côté toutes les chances d'avoir le Christ avec nous, être avec le Christ, pauvre parmi les pauvres. Car comme le précise le passage numéro 2, le monde des plus pauvres est le monde de l'amour, celui où le Christ est pleinement à l'aise, puisqu'il est en priorité le sien. Jésus était plein d'amour pour les pauvres, il était proche des pauvres, dit le commentaire 2, connaissant les mêmes souffrances et les mêmes humiliations, tout en continuant à aimer encore. Le Christ était leur familier. Donc en les trouvant eux, on le trouve lui. Les membres de la Pierre d'Angle, en commentant le texte 3, mettent en lumière trois dimensions de la recherche intranquille du plus exclu. Premièrement, aller vers les lieux impossibles. Ils disent, je dis quelques expressions, aller au désert, chercher celui qu'on a du mal à trouver, descendre au plus profond, dans les recoins les plus reclus, aller dans l'ombre, de l'autre côté, dans un autre monde. Donc les très pauvres ne se laissent pas trouver aisément. Ils sont là où personne ne s'aventure, et ils rejettent ceux qui s'approchent et ils les insultent. Ils sont dans leur monde à eux et presque inaccessibles. Et selon le troisième commentateur de cette citation, l'altérité est si difficile à surmonter que la personne envisage, pour rejoindre l'exclu, de redevenir elle-même exclue. C'était la première dimension. Deuxième dimension, la persévérance, en demeurant connecté à soi-même par des petits dialogues intérieurs, en jaugeant ses capacités, les épreuves, les découragements, et en se risquant à décider de continuer quels que soient les obstacles. Et deux des commentaires du numéro 3 parlent d'un point d'appui dans une force extérieure. Le premier commentaire évoque une force qui vient d'ailleurs et qui donne de poursuivre la mission. Peut-être en langage théologique, on pourrait parler de la force de l'Esprit-Saint. Le deuxième commentaire dit de demander au Christ de nous donner la force que lui a. Voilà, trois pistes qui nous sont données par les membres du Quart Monde pour vivre cette recherche intranquille du plus exclu, cette priorité au plus pauvre. Merci beaucoup.
Voilà, ben je prends le relais après Laure pour, à mon tour, commenter ces textes. Il va y avoir pas mal de choses qui se recoupent, comme vous pouvez l'imaginer, mais voilà. Donc, il me semble qu'on a des éléments très importants à travers ce texte-là pour comprendre la manière dont Joseph Rzezinski envisageait la priorité aux plus pauvres, et puis la manière dont ça résonne chez des personnes elles-mêmes qui ont connu la grande précarité. On voit tout de suite que ce qui est premier pour Joseph Rzezinski, c'est qu'on prenne au sérieux, on pourrait dire, et je crois que Laure a employé l'expression, l'expertise des personnes les plus pauvres. Et cette expertise, elle vient, d'après Joseph Rzezinski, de leur expérience de l'exclusion. Je crois que ici, on a affaire à une percée décisive qui a été réalisée par ATD Quart Monde et Joseph Rzezinski, ou Joseph Rzezinski et ATD Quart Monde, j'en sais rien, enfin bref, et qui est reprise, cette percée qui est reprise aussi par les personnes qui ont commenté les textes. Je cite, « Le Père Joseph nous apprend à écouter l'autre et d'être convaincu qu'il a quelque chose à m'apprendre et que je vais recevoir quelque chose de lui. » C'est une percée décisive parce que c'est le renversement des manières habituelles de voir où le pauvre est vu avant tout comme quelqu'un qui manque et à qui on va devoir apporter quelque chose. Or, ici, l'attention est portée sur le fait de recevoir de lui. Et c'est premier. Dans un autre paragraphe, les personnes qui ont commenté les petits textes de Joseph Rzezinski précisent que ce qui est à écouter de la part des personnes qui connaissent la misère, c'est non pas une plainte, mais, je cite, leur réflexion propre, ce qu'ils vivent, ce qu'ils attendent de la société. Le mot réflexion, ici, me semble assez important, et il est expliqué et déployé en deux directions, d'une part ce qu'ils vivent, et d'autre part ce qu'ils attendent de la société. Autrement dit, c'est une réflexion qui s'élabore au croisement d'une expérience spécifique et de ce qu'ils ont envie de dire à la société. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, qu'on retrouvera demain dans les différentes choses qu'on travaillera, et qui sera vraiment en fait une constante, qui a été une constante un peu de notre travail là au cours de ce séminaire, c'est que la priorité aux plus pauvres est une recherche, un mouvement, une dynamique. Joseph Rzezinski pose la question, sommes-nous vraiment allés jusqu'au bout, jusqu'au plus exclu? Voilà, c'est ce mouvement vers toujours rechercher celui qui est le plus exclu. Et alors ça, je crois que ça entraîne plusieurs conséquences assez importantes. D'abord, l'option pour les pauvres, déclinée de cette manière-là, n'oppose pas d'un côté ceux qui seraient acteurs de l'option pour les pauvres, et d'un autre côté ceux qui en seraient les bénéficiaires, autrement dit les pauvres. En fait, c'est une recherche constante de ceux qui sont les plus pauvres et qui est capable d'emporter tout le monde dans ce mouvement de recherche, y compris les pauvres. Voilà. Les pauvres aussi font la priorité aux plus pauvres. Ça veut dire que tous sont invités à donner cette priorité aux plus pauvres. Tous, même ceux qui connaissent ou qui ont connu la misère. Et d'ailleurs, il est frappant que les membres de la Pierre d'Angle qui ont commenté ce petit passage se mettent tout de suite dans cette perspective-là. Et ils réfléchissent à comment faire pour rejoindre le plus pauvre. Et ils en disent aussi la difficulté. Et ils disent, il faut persévérer, il faut qu'on reparte, il ne faut pas baisser les bras, c'est pas toujours facile, c'est assez dur, voilà. Et pourquoi c'est dur? Eh bien, il me semble qu'ils nous donnent aussi des éléments pour comprendre ça. Ils disent, c'est dur parce que l'exclu est dans un autre monde. Voilà, je trouve que c'est assez saisissant comme expression. Et la personne qui parle ajoute, ils sont tellement rentrés dans l'exclusion qu'ils ne nous autorisent pas qu'on fasse le pas. Il y a ici une conscience de ce que produit la misère. Elle fait vivre dans un autre monde. Et il me semble qu'en même temps, dans le texte, on entend des passages qui disent à quoi il peut ressembler cet autre monde. On entend des mots très forts comme le mot « désespoir ». Et on entend des phrases comme celle-ci. Des fois, on est fatigué. On n'a plus le courage d'avancer. Même moi, il y a des moments où je n'ai plus envie d'avancer. Je n'ai plus envie d'être sur le chemin avec Jésus parce que je n'ai plus le courage, plus la force. Voilà. Ça ne se termine pas là, hein, mais il faut entendre ça. Et je crois que cette espèce d'immense fatigue où on sent qu'elle est capable de, disons, de clouer quelqu'un sur place, quoi. Eh bien, ça, je pense que ça nous donne une idée de qu'est-ce que c'est que cet autre monde. Hein. Si on se met tous à la recherche du plus pauvre, si ce souci habite notre conscience au plus profond, on peut avoir cette vision d'une société qui serait tout entière tendue, chacun à partir de ce qu'il est, vers celui-là qui est tout à fait abandonné. Dans cette vision, finalement, ce qui donnera l'unité à la société, c'est cette quête du plus abandonné. Et c'est à partir de cette quête, finalement, que chacun trouvera sa place par rapport aux autres. Et c'est aussi à partir de là qu'on pourra relativiser toutes nos rivalités grandes ou petites, les conflits qui sont présents en tout groupe et en toute société, au profit finalement d'un enjeu bien plus important, puisqu'il s'agit d'un enjeu de vie et de mort, pour ceux pour lesquels il n'y a pas de place dans la société. Et l'on sent bien que dans cette quête-là, les personnes qui ont connu la misère vont jouer un rôle très important, parce que ce sont elles qui sont les plus proches des plus abandonnés. Elles deviennent donc des guides pour tous les autres. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Troisième point. Dans les extraits du Père Joseph qui nous ont été donnés, il y a aussi une théologie de la priorité aux plus pauvres. Pour lui, au bout de la quête du plus abandonné, c'est la présence du Christ qui nous est donnée. Comment expliquer cela? Eh bien, je crois qu'on trouve dans le texte de Joseph Rezinski, aussi bien que dans les commentaires des membres de la Pierre d'Angle, deux choses qui peuvent nous aider à le comprendre. D'une part, Jésus a vécu la pauvreté. Une personne qui commente Joseph Rezinski dit « Il a été pauvre parmi les pauvres ». Et aussitôt est associée l'expérience que les pauvres et Jésus ont en commun, l'expérience, je cite, « d'être renvoyé, éjecté, expulsé, humilié ». D'ailleurs, aussitôt après cela, vient un petit témoignage, une personne qui raconte ce que ça fait, que d'être regardé de travers parce qu'on est mal chaussé dans un abribus. Et elle ajoute, ça c'est des choses qui dans notre vie de tous les jours nous font penser au Christ. Il y a comme une sorte de communion entre ceux qui ont fait l'expérience de l'humiliation. Et parmi ces personnes, il y a le Christ. L'expérience d'être humilié provoque apparemment ce phénomène de communion. Il y a un petit paragraphe qui explique peut-être pourquoi l'humiliation amène la communion. Une personne écrit, je cite, « Le père Joseph a vu Dieu. Il a vu que le pauvre n'a que l'amour pour s'en sortir. C'est ce qu'a vécu le Christ sur la croix. Il n'avait que l'amour pour son père, l'amour comme seule espérance. » Fin de citation. Ce sont, je trouve, des phrases très fortes, très chargé de sens, et je ne suis pas sûr d'ailleurs de bien les comprendre. Mais il me semble qu'on pourrait peut-être dire que l'expérience de l'humiliation, finalement, balaye tous les points d'appui qu'on pouvait avoir. Tous, sauf un, l'amour de Dieu. Et du coup, il peut y avoir, chez les personnes qui sont passées par des formes longues et continues d'humiliation, une conscience plus vive de la réalité de cet amour de Dieu et du vrai point d'appui qu'il représente. Et en même temps, comme cet amour n'est sensible que dans la foi, ça reste de l'ordre de l'espérance. C'est peut-être à partir de là qu'on pourrait comprendre la toute première citation de Joseph Brzezinski, où il dit « C'est en luttant avec les plus pauvres et en donnant priorité à leur regard qu'un jour je me suis réveillé d'église. » J'aime beaucoup cette expression « je me suis réveillé d'église ». Comme si ça disait que le chemin fait avec les personnes qui connaissent la misère réveille en nous quelque chose. On pourrait peut-être en parler comme une passion des liens, avec en même temps la conscience de leur fragilité. Une passion des liens qui trouve sa source en Christ. Une passion des liens à laquelle les personnes en grande précarité nous ramènent. Ils nous ramènent à cette Pâque du Christ, comme on l'a entendu dans les extraits, là où l'amour de Dieu nous a été redonné à partir de l'abaissement dans lequel nous l'avions entraîné. Voilà. Pour finir, je signale aussi quelques questions que nous avons croisées dans notre séminaire. Il n'est pas sûr qu'on puisse y répondre entièrement demain, mais je crois qu'on pourra au moins donner quelques éléments de réponse. J'ai 4 questions. Tout d'abord, on a entendu parler d'une déclinaison politique de la priorité aux plus pauvres, telle qu'elle est esquissée par Joseph Brzezinski. Voilà, on comprend l'intuition qu'une société peut, disons, retrouver quelque chose de tout à fait crucial à partir de cette priorité aux plus pauvres. Mais concrètement, comment ça peut se décliner, cette dimension politique de l'option de la priorité aux plus pauvres? Voilà. Et notamment, que deviennent dans cette vision les conflits, les rapports de force qui souvent sont le pain quotidien de la politique? Ça, c'est une première question. Deuxième question, que deviennent les autres expertises humaines face à l'expertise des plus pauvres? Spontanément, j'aurais tendance à dire, elles sont remises à leur juste place. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire qu'elles sont remises à leur juste place? Peut-être même qu'elles trouveraient une plus grande fécondité encore de ce fait-là. Mais voilà, moi j'aimerais en savoir plus là-dessus. Troisième question. Comment va s'opérer la rencontre entre ce qui naît au contact des personnes marquées par la misère et d'autres grandes précarités? Par exemple, je pense au problème des réfugiés qu'on connaît actuellement, toute la question des personnes en fin de vie, les personnes marquées par le handicap, qui souvent ont beaucoup de mal à trouver aussi leur place dans la société. Comment la priorité aux plus pauvres, telle que Joseph Brzezinski la pense, telle qu'il nous la propose et telle qu'elle résonne chez des personnes en grande précarité, comment cette priorité aux plus pauvres va-t-elle pouvoir féconder le souci d'autres précarités? Voilà. Et enfin, dernière question, elle est tout à fait théologique celle-là. Quels traits du visage du Christ sont ainsi mis en relief? On voit à travers ce qu'on a entendu ce soir que c'est au moins le visage du Christ qui est capable de s'affronter au désespoir. Voilà. Je trouve qu'on a grand besoin de percevoir quelque chose de ce visage du Christ aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup à Étienne et Laure de cette relecture, voilà, qui nous font entrer dans une réflexion personnelle aussi autour de ces points. Voilà, nous avons maintenant un temps d'échange possible entre nous, de réactions, de questions. Et j'invite Claudine, Alain et Laurence à nous rejoindre, parce que les questions et les réactions peuvent aussi être adressées. Et Jean-Claude, pardon, oui, peuvent être aussi adressées à eux. Large palette. Ouais. Ah oui, je veux bien. C'est gentil. Merci. Voilà, donc la parole est à vous. Voilà, réaction, écho. Questions posées à l'un ou l'autre de ceux qui sont là devant vous.
La première chose que j'ai remarquée par Père Joseph, il a partagé la vie avec les pauvres. Il a partagé jour à jour les soucis comme notre Seigneur. Il n'a pas pris un place dans un palais, notre Seigneur. Il a partagé notre vie sur la terre. Donc, il pouvait parler de notre souci. La même chose, Père Joseph. En plus, Père Joseph était nourri par Dieu. Il avait Dieu dans sa vie. L'Église est Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, c'est un corps mystique. Il s'est nourri et il a bien dit, c'est l'Évangile qui a donné la force, de donner aux autres la force pour se relever. C'est tout à fait clair. Le partage aussi que Père Joseph a montré aux pauvres, parce qu'on dit pauvres, pauvres. Nous ne sommes pas des pauvres, parce que nous partageons pas notre vie avec les pauvres, nous ne montrons pas notre sincérité avec les pauvres. La sincérité des pauvres, de restreindre notre vie, qu'est-ce que c'est superflu, et montre aux pauvres que nous sommes aussi un petit peu pauvres, un petit peu plus riches, et, parce que le Christ, il s'est nourri comme des apôtres. Il était tout à fait comme les autres. Nous devons aussi partager notre vie. Je m'explique peut-être mal. Notre vie financière, nous pouvons mettre à la portée des pauvres. Partager, si nous avons quelque chose au compte, parce que je pense à Père Abbé Pierre, il a dit bien sûr, il a dit il y a des comptes dans les banques qui dorment, et là il y a des pauvres qui ont besoin de logement et tout cela. C'est ça que je veux viser seulement. Notre vie doit correspondre avec les pauvres pauvres. Pardon.
Si, voilà.
Mais la question est, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour voilà. Les pauvres?
C'est la réaction. C'est un écho. Voilà, d'autres réactions, questions, échos. Peut-être faire remonter aussi quelques questions que vous aviez à la lecture des textes. Hein. Oui, allez-y, là-bas.
Merci beaucoup d'être venu. Je voudrais froisser personne, mais le vocable de expertise me fait un peu tressaillir. Parce que je trouve qu'il est trop du registre de l'entreprise. Voilà, c'est tout.
Jean-Claude, tu veux réagir à ça?
Non, peut-être juste pour dire que le terme a été employé par le Père Joseph, donc c'est une citation du Père Joseph. On peut en effet penser que le terme est trop de l'entreprise, ou que c'est un terme trop philosophique, trop théologique, ou trop chimique, mais en fait, le Père Joseph dit, les plus pauvres ont l'expertise essentielle, car c'est l'expertise de ce qu'attend de nous Jésus-Christ. Voilà la référence exacte.
Oui, c'est une citation du Père Joseph. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Voilà, une personne ici.
On parle beaucoup de voir dans le Christ le plus pauvre. Enfin, voir le Christ dans le plus pauvre, c'est une expression qui est assez banalisée. Moi, j'ai l'impression que c'est l'ordre de la grâce. Donc, pourquoi banaliser cette expression? Est-ce que c'est pas donné à un moment et ensuite repris comme toute grâce, en fait? Est-ce que tout chrétien peut voir comme ça, dans le plus pauvre, le Christ?
Oui, on peut prendre plusieurs questions, oui. Non, on va prendre d'autres questions, voilà, derrière, François.
Merci. On a entendu dans le commentaire qui a été fait des paroles du Père Joseph que l'amour, c'est ce qui reste. Il a vu que le pauvre n'a que l'amour pour s'en sortir. Mais on peut entendre aussi, parfois, dans des paroles de personnes qui traversent des grandes, grandes galères, que la souffrance engendre plutôt le repli sur soi, ou l'impossibilité de croire à l'amour, etc. Et est-ce que ça veut dire que pour en arriver au constat que vous avez fait dans ce texte, il faut déjà avoir fait un chemin? Ou est-ce qu'il y aurait des formes d'amour qui seraient quand même toujours accessibles?
Il faut faire bref.
aimer, ça veut dire aider. Pas seulement avec la parole, un acte.
Ah, merci. J'avais une question à poser à ceux qui ont écrit le texte, là. Ça a été cité tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est l'un de vous qui peut répondre, Laurence, Alain ou Claudine. Mais quand vous dites « ceux qui sont dans l'exclusion ne nous autorisent pas à ce qu'on fasse le pas », et je me suis dit « est-ce qu'il ne faudrait pas redevenir exclu pour arriver à toucher l'exclu ?» Vous pouvez m'expliquer ça un peu, Alain ?
Donc, pour revenir sur cette question, là, faudrait-il pas qu'on redevienne exclu ? C'est-à-dire que moi, j'ai la chance. Il y a un moment, j'avais été exclu, j'avais été oublié, j'étais un fantôme, je n'existais pas. Et puis, on m'a donné la chance de rejoindre un groupe de la pierre d'orgue. Donc là, j'ai ressorti de l'obscurité pour aller vers la lumière. Et puis maintenant, je suis bien. Je suis bien intégré. Le travail, il est intéressant. Et puis, c'est vrai que on ne pense plus qu'à soi-même. Mais on ne pense pas au petit voisin qui est tout seul, qui est dans son monde de tristesse, de souffrance. Alors, des fois, je me dis, ben, c'est vrai. Vu que j'ai eu la chance qu'on m'a tendu la main pour sortir de ce monde d'exclusion, mais il va falloir que tu te remettes en conscience, car à côté de toi aussi, il y a encore des personnes qui sont dans la souffrance, et on n'ose pas faire le pas, ou on n'ose pas les déranger, ils sont dans leur monde, comme moi j'étais dans le mien avant. Je n'aimais pas être dérangé. Alors, des fois, oui, c'est vrai, il faut se remettre aussi en question, de dire, ben oui, mais Alain, regarde autour de toi, il y a encore quelqu'un qui a besoin. Donc après, c'est faire le pas, c'est difficile, l'accueil, l'approche, peut-être le rejet, et on repart, on refait le même chemin à l'envers. Donc il faut aussi de temps en temps se remettre aussi en question. Ne plus penser qu'à soi-même, je pense au moi, je suis bien dans le groupe, mais il faut que je me dise aussi que à côté de chez moi, il y a encore quelqu'un qui a besoin de moi. Comme disait madame, aimer pour donner, voilà, c'est ça, le...
Vous avez dit que le Seigneur a parlé à travers vous. C'est ça qu'il faut faire. La richesse qu'elle a reçue par d'autres, il faut redonner. Oui. C'est ça, c'est les là. Vous avez bien compris.
C'est très bien. Je mon collègue qui était en train de dire
Moi, je vais parler des plus exclus. C'est vrai que c'est pas évident de, quand on a connu des moments difficiles, d'aller chercher exclus parce qu'on a peur de retomber. On se dit, on a vécu du malheur dans notre vie, mais est-ce qu'on est prêt à y retourner dans le désert, comme on dit, hein? On a fait la traversée du désert, mais c'est pas toujours évident. Moi, c'est ça quelquefois qui me retient. Je dis, j'irais bien chercher les autres, mais j'ai dit, et moi? Est-ce que je ne me mets pas en danger vis-à-vis des autres? Ce que dit Alain, c'est bien, on doit penser aux plus petits, mais on doit aussi se protéger, parce que quand on a vécu des périodes difficiles dans notre vie, et ben d'aller chercher l'autre, et ben ça nous renvoie à ce qu'on a vécu. Mais il faut aussi avoir la force de le faire. Mais aussi, il faut se protéger et se faire aider, parce que tout à l'heure, on m'a dit, c'est tous ensemble.
Son équipe.
C'est en équipe, oui, c'est en équipe, c'est ensemble, c'est pas tout seul. Voilà, et ensemble, on peut vraiment aider quelqu'un à sortir.
Peut-être les amis de Pierre d'Angle, vous pourrez faire écho à la question qu'a posée François. François, il nous disait que il n'y a que l'amour, on dit quelque part là, il n'y a que l'amour pour s'en sortir, là, dans la feuille ici. C'est la réponse à l'écho à ce que disait le Père Joseph au numéro 2. Et François disait que parfois, ben en fait, c'est le repli plutôt qui vient. Est-ce qu'il ne faut pas un chemin avant qu'il y ait l'amour? Comment on...
Eh ben, il faut d'abord être à l'écoute de l'autre. C'est très important d'être à l'écoute des autres et puis leur dire qu'on les aime. Mais pas leur dire qu'on les aime et puis après qu'on va les laisser tomber. C'est d'être là, tout le temps. Oui.
Non,
s'il vous plaît. Oui, mais c'est ne jamais laisser tomber la personne. Voilà, parce que moi, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens.
C'est juste ma expérience.
Oui, merci. C'est que moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé à un moment difficile de ma vie à m'en sortir. Ils m'ont tenu à bout de bras et je me suis dit après, mais ce qu'ils ont fait pour moi, je dois le faire pour les autres. Voilà, c'est des gens. Je pense à une personne qui est morte, mais qui m'a beaucoup aidée, qui a beaucoup connu la souffrance dans sa vie. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça pour moi? Parce qu'elle m'a dit, moi, on m'a tendu la main, maintenant je te l'attends. Et après, ça m'a donné envie, quand cette personne est venue à mon secours, eh ben, de me dire, ce qu'elle a fait pour moi, eh ben, moi, je le ferai pour les autres. Et puis, je pense aussi à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a aussi beaucoup aidé à cette époque, qui est toujours en vie. Et eh ben, cette personne, je lui ai dit un jour, eh ben, moi, ce que vous avez fait pour moi, eh ben, ça me donne envie de le faire pour les autres. Parce que c'était tellement d'amour. Au début, on ne comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là avec nous, dans nos problèmes? On se sent un petit peu quelquefois agressé. Puis après, quand on s'en sort, eh ben, on se dit, s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est ça. Alors qu'on rencontre les gens qui sont vraiment en difficulté. Aujourd'hui, j'ai entendu dans la journée le mot « exclusion ». Je dis non. Je dis, on ne peut pas exclure quelqu'un. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est prier pour la personne qui est en grande difficulté.
Donc si je comprends bien, Laurent, ce que tu viens de dire, ça signifierait que c'est pas la pauvreté ou la souffrance qui, par elle-même, ouvre à l'amour, c'est les rencontres qu'on peut faire quand on est dans la galère qui font qu'alors on a l'amour auquel se raccrocher. Est-ce que ce que je dis là, c'est ce que tu voulais dire ou...
Oui, se raccrocher, et puis parce que tout seul, quand on est enfant du trou, eh ben, on a du mal à remonter. Hein. Et quand il y a des gens qui vous aident à remonter la pente, ben, et qui sont là pour vous accompagner après, et pour vous dire, il ne faut pas baisser les bras. Maintenant, tu t'es remonté, il ne faut pas redescendre, il faut que tu t'accroches. Et ça, c'est important. Parce que sans amour, on ne peut rien. Rien. Parce qu'on n'existe plus. Voilà. Et Dieu, même le Christ, hein, quand il était au plus profond de l'enfer, même quand il était dans le désert, il avait toujours l'amour de son Père. Et c'est ça, peut-être aussi, qui est important. Ce qu'il a voulu nous dire, c'est que l'amour, quand on est seul, il faut s'y raccrocher. Lui, il est toujours présent pour nous. Alors nous, moi je me dis, il est là pour moi quand ça ne va pas, quand je prie. Je sais qu'il m'entend. Et je me dis, eh ben, ce qu'il me donne, je dois le donner aux autres. Parce qu'il n'a pas été sur la croix pour rien. Il l'a fait par amour pour nous. Bon, nous, on n'irait peut-être pas sur une croix, mais ce qu'il nous a donné, c'est quand même un bel exemple. Il a été jusqu'au bout. Et moi, je trouve ça merveilleux.
Alain, tu veux préciser? Ouais.
Moi, je voudrais rajouter, si... on n'a pas l'amour de Jésus, on ne peut pas avancer. Je ne peux pas être de la pierre d'angle. Parce que moi, je me dis toujours, je suis très content d'être là, je vais aller le poser, cette question, il faut que je le dise. Moi, je me dis toujours, Jésus, il vit en moi. Mais moi, je vis en Jésus. Parce que si je n'ai pas l'amour de Jésus, je ne pourrais pas aller vers les autres. Je ne pourrais pas faire tout ce chemin. Des fois, je suis fatigué, je suis découragé, j'ai plus de force. L'amour de Jésus, c'est lui qui me donne la force de continuer, d'avancer. Donc, l'amour de Jésus, l'amour de toutes les personnes que je connais, je vais prendre cet exemple de ce soir, toutes ces personnes qui sont là et qui nous écoutent, si on n'a pas l'amour de l'un ou de l'autre, on ne pourra jamais avancer. On va redevenir dans un monde en cours d'exclusion, dans un monde à soi-même. Et ça, je veux plus le vivre. Ça fait mal, c'est une souffrance pour moi. Être aimé, l'amour de Jésus, c'est l'amour que je retrouve dans les groupes de la pierre d'angle, ou comme ici ce soir, toutes ces personnes qui sont là. Au moins, je me dis, ben, je ne suis plus un fantôme. Je ne suis plus oublié, je suis redevenu une personne, comme Jésus, il est une personne, l'amour. Et si on n'a pas cet amour, on ne pourra jamais avancer.
Les commentaires de Laurence et Alain, c'est la même chose pour moi, quoi. Les commentaires de Laurence et Alain, c'est cette expérience aussi que je vis aussi, quoi. Alors donc, je pense que il faut que, comme j'ai dit, on m'a donné, moi je vais pour donner aux autres aussi. C'est ça qu'il faut faire dans la société d'aujourd'hui, parce que c'est très 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 dur. C'est-à-dire, on dit pauvre, mais il y a une façon de dire pauvre, quoi. On n'est pas pauvre pour argent, on est pauvre parce que on est humilié, on est expulsé. C'est ça le mot pauvre. Hein? Pour moi, c'est. On pourra s'en sortir si on résout toutes les questions de Joseph Wyszynski. Mais Joseph Wyszynski, il a été là pour nous, mais qui l'a envoyé? C'est Jésus. Hein? Alors donc, nous. Il nous donne le chemin. C'est comme ça qu'il faut que ça va se passer comme ça, quoi. Si on prend le chemin de Joseph Wyszynski, on peut s'en sortir.
Je reviens à Laurence. Il m'a semblé comprendre que c'est d'abord la rencontre avec un être proche, enfin, un frère, qui a donné la main et qui a sorti de ce pas, de ce creux. Et c'est seulement après qu'on peut lire là, dans ce regard-là, le regard de Jésus, du Christ. Parce que je n'arrive pas bien à sentir si c'est la force de la rencontre, de la fraternité, de la pierre d'angle qui vous donne cette force, ou bien vous avez pu rentrer dans cette fraternité parce que vous êtes des pierres qui peu à peu ont été amenées et qui du coup construisent, enfin font église pour le coup, là, font un bâtiment. Alors j'essaie de redire ma question simplement. Est-ce que c'est la rencontre du Christ qui a été première ou la rencontre du frère? Voilà. Donc un peu abstrait ou au contraire proche?
Comment distinguer les deux?
Ben moi, je vais vous répondre. J'ai rencontré le Christ très jeune dans ma vie. Et puis, vraiment, non, bon, ben, c'est vrai, on a un creux. Moi, j'avais la foi, mais sans plus l'avoir, parce que je ne voyais plus rien. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à retrouver cette foi, à m'en sortir. Et peut-être que ça m'a rendu plus sensible, peut-être, à la parole de l'Église. Et j'ai rencontré Pierre Langle après, oui. Mais c'était un grand plaisir parce que j'ai rencontré des gens en exclusion. J'ai rencontré aussi des gens qui n'étaient pas en exclusion, mais une fraternité, quelque chose de fort. Et puis là, j'ai pu au moins exprimer ce que j'avais dans le cœur quand je parle du Christ. Voilà. Parce que moi, il m'accompagne beaucoup.
Il y a beaucoup de témoignages, moi je pense aussi à un témoignage, le témoignage de Martine par exemple, la diaconie du Var, qui dit ça, qui explique bien que la rencontre des personnes qui l'ont aidé à sortir de leur misère, c'est un peu comme une corde qui tombait dans le puits où elles étaient tombées, hein, le puits de misère. Et du coup elle dit, mais cette corde c'était aussi la force du Christ, mais en même temps on voit bien qu'elle prend conscience de cette présence du Christ dans sa vie, qui vient la chercher au fond de sa misère, à travers la rencontre des personnes qui l'ont aidée. Ça va ensemble. Hein? Voilà, c'est une révélation. C'est le frère qui me révèle le Christ en même temps. Voilà, cette expérience-là est forcément liée l'une à l'autre. Voilà. C'est les autres.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'articulation entre le registre de l'amour et le registre politique? Et tout à l'heure, il a été dit que sur l'option préférentielle pour les pauvres, le champ politique, rapport de force, on saura tout demain. Mais qu'en est-il de la logique distributive et de l'orientation politique, enfin, qu'apprend-on en relisant Joseph Wyszynski à ce sujet?
On on pousse le micro vers Jean-Claude ou Étienne, je ne sais pas.
Alors, on ne vous a pas promis qu'on vous dirait tout demain. Non, parce que ce n'est pas évident comme question. En tout cas, enfin, sur la question de l'amour et la politique, moi je dirais que ce n'est pas des registres qui sont immédiatement compatibles, mais que moi je suis persuadé en même temps que l'amour joue comme, peut jouer comme une sorte de principe et fondement, voilà, qui peut guider un agir politique. Voilà. Je ne dis pas que ça va faire des hommes et des femmes politiques qui vont dire « je vous aime », etc., etc. C'est pas du tout ça. Mais, disons, à travers leur manière de faire leur travail de responsable politique, à travers les manières de vivre les rapports de force, les arbitrages qu'il faut faire, les décisions à prendre, etc., il y a quelque chose de l'amour, et de l'amour de Dieu aussi, je crois, qui peut se dire, voilà, de manière médiate, bien entendu. Hein. Bon, et je crois que là-dessus, justement, une société qui oublie les plus pauvres oublie ça en même temps. Et que du coup, la présence des plus pauvres est comme un rendez-vous pour toute société. Et que, disons, plus une société va mépriser les, disons, ceux qui ne trouvent pas de place en son sein, et plus elle va tourner le dos à ce fondement-là. Et plus elle va aller dans des logiques qui peuvent aller jusqu'à des choses folles. Ouais. Bon. Ça ne répond pas à toutes les questions, hein, mais...
Oui, allez-y. Yes.
Alors, dans notre groupe, on a été frappé par une phrase. Je crois que l'amour, la foi et la compassion sont très proches au niveau de l'esprit humain. C'est un écho numéro 2 en haut de plutôt de la deuxième page. Je crois que l'amour, la foi, la compassion sont très proches au niveau de l'esprit humain. Quand on est pauvre, on n'a plus que ça. Est-ce que ce serait possible d'expliquer qu'est-ce que c'est que justement cette compassion du pauvre par rapport aux autres ?
J'avais un peu la même question d'ailleurs.
Peut-être Alain, tu vas pouvoir la formuler autrement.
Je me disais, voilà, comment, quand vous dites on n'a plus que ça, moi c'était un peu la question tout à l'heure finalement de François, c'est-à-dire on n'a plus que ça, ça reste comme quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est en nous, et comment ça se manifeste, et, ou bien c'est quelque chose qui nous est redonné par les autres.
Il y a deux façons. Cet amour-là, nous, c'est en nous. C'est en nous, ça nous appartient. Mais aussi, c'est toutes les personnes qui nous l'ont donné. Donc, il va falloir qu'on l'offre. L'un, il ne va pas sans l'autre, comme je vous avais dit tout à l'heure. L'un n'ira jamais sans l'autre. On a toujours besoin, il faut être... Il ne faut pas que ce soit séparé. On ne fait plus qu'un seul bloc. C'est une compassion. On est obligé de vivre comme ça. C'est notre truc à nous. On peut plus vivre par petits morceaux. C'est là, je crois que l'amour, la foi, la compassion sont très proches au niveau de l'esprit humain. Tout ça, c'est de l'esprit humain, c'est auprès de nous-mêmes qu'on nous a donné. Quand on est pauvre, on n'a plus que ça. C'est-à-dire que, plus que ça, pour moi, c'est la richesse. Pour moi, c'est une richesse, la compassion partagée. Voilà, on n'a plus que ça. On se dit, on est bien, je suis riche, je suis bien, je suis riche. Voilà, moi je le vois comme ça. Comment ?
Tu ris d'amour.
Oui, riche d'amour. Parce que les gens, ils ont du mal à comprendre le mot riche. Quand je dis toujours je suis pauvre, mais riche. Ah, t'as des sous là ? Non. je suis riche, depuis que j'ai beaucoup d'amour. Comme toutes ces personnes qui sont ici, je suis très riche.
Ariane se posait la question, comment s'exprime cette compassion ?
Comment ça se passe ?
La compassion, pour moi, c'est... Je suis un autre. Je me dédouble.
Comment tu fais? Moi, j'arrive pas.
Hein. Je dis toujours, j'ai deux habits. J'ai un habit qu'on nous a mis sur le dos, pauvre, exclu, rejeté ici et là. Après la compassion, je suis bien, je suis une autre personne. Parce que je rencontre de la chaleur, la présence, j'existe. Alors je ne suis plus Alain à Soma, je suis Alain dans une. Je suis une autre. Pour moi, je me vois comme ça. Des fois, quand j'explique aussi dans mon groupe à la Pierre d'Angle à Lens, ils ont du mal à me suivre. C'est-à-dire que je me revêtis d'un autre manteau. Mais un autre manteau, comme je dis, c'est pour que l'argent, c'est pas celui-là, c'est un manteau d'amour. J'existe. Au moins, ce soir, j'existe auprès de vous tous. Et ça, je le dis toujours, j'ai dit dans mes interventions, c'est de la compassion pour moi. Moi, c'est mon bonheur. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, Jésus, il vit en moi, mais moi, je vis en lui. Si ça ne marche pas comme ça, je ne peux pas être ici parmi vous ce soir. Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas être comme ça dans mon groupe de la fraternité de la Pierre d'Angle. Je ne pouvais pas être comme ça dans le groupe de Place et Parole des Pauvres. Si il n'y a pas d'amour de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'autre, on n'avancera jamais. Parce que la personne qui est exclue, qui est pauvre ici et de là, mais si elle est intelligente, mais si elle est riche, mais si on ne leur donne pas cette parole pour changer le regard de cette société, on ne va jamais arriver. Et grâce à vous, ici tous présents et présentes, c'est ça qui fait notre compassion, notre bonheur. Moi, je le vois comme ça. C'est pas si...
Il y a une question, allez-y.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est tout simplement que ça me fait écho à ce que dit Joseph Brzezinski sur « Les plus pauvres nous révèlent l'essentiel de l'humain ». Et quand je dis cette phrase, alors, mais je parle sous le contrôle de nos amis, hein, quand on est pauvre, on n'a plus que ça, donc l'amour, la foi, la compassion, hein, qui demeure quelque chose comme le noyau intact humain, qui est difficile à voir de l'extérieur, puisqu'on a toujours l'image du pauvre avec tous les préjugés qu'on peut colporter. Et j'entendais bien dans cette histoire d'un dédoublement, il y a la façade que les personnes voient et avec tous les préjugés qu'on peut porter sur le pauvre, mais à l'intérieur, il y a le noyau intact humain que Joseph Brzezinski, je dirais, met toujours en avant pour dire ben, il y a encore, derrière toute cette façade, eh bien, il y a encore cette capacité d'amour, il y a encore cette capacité de compassion, il y a encore cette foi qui peut s'exprimer, et qui s'exprime et qui affleure à certains moments de la vie, et c'est les perles que nous voyons dans la plupart des paroles voilà, des personnes très, très pauvres. Mais ça, je parle sous votre contrôle. C'est comme ça que moi, je l'entends.
Voilà, je crois qu'on va arriver au terme de notre soirée. Il faut qu'il en reste un peu pour demain. Voilà, on va remercier tous nos intervenants. Et pour ceux qui le souhaitent, nous vous donnons rendez-vous demain matin, 9h30, pour la suite de nos travaux. Voilà, bon retour et bonne soirée à chacun.